Deutsche Welle. Droits et libertés.
Pendant les 100 jours du génocide, je subis une souffrance inexprimable.
Il faut qu'il y ait des garde-fous sociaux, il faut qu'il y ait des garde-fous politiques. Mais quand tous les garde-fous sont tombés, c'est comme ça qu'on arrive à un génocide.
Deux voix de femmes, deux rescapées du génocide de 1994 au Rwanda, j'ai choisi de vous faire entendre aujourd'hui leurs souvenirs croisés de ces 100 jours pendant lesquels l'indicible s'est produit dans l'indifférence du reste du monde. Bienvenue à l'écoute de ce magazine qui vous est proposé par Marie-Ange Pierron. Toutes deux vivent aujourd'hui en Allemagne. Toutes deux ont perdu une grande partie de leur famille. La première s'appelle Esther Mujawayo. En 1994, elle vit à Kigali où elle travaille pour l'ONG Oxfam. Son mari est enseignant. Ils ont trois filles, la plus jeune à 6 mois. La seconde femme s'appelle Denise Wimana Reinhardt. Elle travaille à l'époque à la CIMERWA, la Société des Ciments du Rwanda, à Bugarama, dans le sud-ouest du pays, tout près de la frontière burundaise. Son mari sera tué très tôt. En 1994, Denise a deux petits garçons et elle est enceinte. Retour tout d'abord sur cette nuit fatidique du 6 au 7 avril 1994, lorsque l'attentat contre l'avion du président Habyarimana donne le signal de départ au tueur.
La nuit du 6 avril, le mercredi nuit, quand l'avion du président est tombé, nous, on n'a pas su, parce qu'on n'avait pas allumé la radio. On était avec les enfants, on était en famille, on n'a pas allumé la radio. Et c'est le matin, seulement le jeudi matin, le 7, qu'un ami, un collègue, qui habite, lui, du côté de l'aéroport, m'a téléphoné. Il a dit « Comment ça va ?»« Hein, ça va, mais le ton était... » Alors, il me demande « Mais vous avez entendu ?» Et je dis « Entendu quoi ?» Alors, il dit « Allumez la radio. » Donc là, on a allumé la radio et on a entendu la musique classique qui passe. Quand il y a la musique classique au Rwanda, c'est mauvais signe. Alors là c'était entrecoupé par des déclarations à la radio en disant que le président a été tué, resté à la maison. Et puis petit à petit, le ton est monté. Et surtout du côté de Radio RTLM, là, c'était clair. Eux, ils ont dit tout de suite que les Belges et les Tutsis ont tué le président. On a paniqué.
Le 7 avril, très tôt le matin, j'écoutais seulement la musique classique. Et puis j'ai dit, c'était une longue musique qui ne se stoppait pas. Et puis j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis allée chez ma voisine, Goretti, elle vit encore. Et puis je l'avais demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, tu ne sais pas. L'avion du président Habyarimana a crashé. Et le 7 avril, déjà, les collègues qui travaillaient dans la CIMERWA, jeunes collègues qui étaient dans la partie Hutu, venaient déjà devant le portail et puis ils me disaient « Ah, votre temps est venu, donc le temps de nous tuer ».
Nous, on était encore à la maison, mais tout d'un coup, en bas de la route, on habitait en haut d'une route, et en bas de la route, c'était une route où il y avait une très très mauvaise barrière, la barrière de Gitega. Elle était connue, là, on tuait beaucoup. Tout d'un coup, on a entendu des cris, on a vu une maison brûler, on a entendu que c'est la famille de notre voisin, un vieux monsieur, un vieux agronome, Karekezi, qui était tué, sa femme et les enfants. Alors là, on a décidé, non, il faut qu'on se mette à l'abri. Heureusement, notre maison, la maison de service, la maison de fonction que nous occupions à cause de la position de mon mari, était attenante à l'école, à l'internat. Donc nous avons pu passer à l'internat avec les enfants, mais aussi avec tous les voisins. Parce qu'au début, ce n'était pas clair que c'est les Tutsis seulement qu'on cherche. Donc on est resté là pendant une semaine à peu près, on s'organisait tant bien que mal, on entendait toujours aux barrières qu'on était en train de tuer, et puis c'est devenu clair qu'on tuait les Tutsis aux barrières, mais qu'on ne tuait pas les Hutus. Donc les collègues Hutus sont partis, ils sont retournés dans leur maison, sauf deux jeunes qui ont voulu rester avec nous et qui finalement ont été tués avec mon mari.
Oui, le 16 avril, c'était la catastrophe à la CIMERWA, là où j'ai travaillé. Parce que c'était le jour que nous étions attaqués officiellement par les miliciens Hutus qui étaient là, rwandais et miliciens aussi Hutu-Burundais qui étaient réfugiés là-bas. Alors, à ce temps-là, j'étais enceinte. Et avant l'attaque, je te avisais par une dame qui était autour, qui venait du marché pour faire l'achat, vivre pour moi parce que je ne pouvais pas sortir. Elle m'a dit, « Ah, Denise, dans quelques minutes, tu seras tuée avec les autres Tutsis ici parce que je viens du marché de Niakabouye. Je rencontrais ta tante, Priscille, ses deux fils, son beau-père sont déjà tués sur la route. J'ai écouté qu'ils viennent, les milices viennent chez toi pour te tuer. »
Donc quelqu'un nous a trahis. Un jour, on était à table à 19h parce qu'on avait des horaires bien, bien fixes. Et ils sont tout de suite arrivés, des militaires avec des fusils. Et ils nous ont fait asseoir par terre, les femmes et les enfants d'un côté, les hommes et les garçons de l'autre côté. Et j'ai toujours en tête le jeune garçon qui voulait venir à côté de moi et qu'on a ramené dans le groupe des hommes. Et on les a tous pris, on les a amenés, on les a sortis de l'école. On a traversé le quartier où nous habitions et on les a amenés à la fameuse barrière de Guitéga pour les tuer la nuit du 30 avril.
Dans ma maison, il y avait 10 personnes. Et puis, comme chrétienne, je rassemblais les gens dans la maison. Nous étions dans le couloir. On dit, OK, nous allons mourir, mais nous sommes chrétiens. Préparons-nous. Et déjà, les milices ont attaqué notre maison à partir de la porte de derrière. Derrière mon don, je portais mon deuxième fils. Nous sommes réfugiés dans la salle de bain. Les autres sont allés dans ma chambre. Et puis, mon fils aîné, avec mon garçon domestique, est allé dans la chambre de visiteurs. Et puis, ils ont tué les gens dans ma chambre. Ils sont venus, ils ont vu que la porte où j'ai trouvé, c'était fermée. Ils ont détruit la porte. Ils ont fait une causerie avec moi. Ils ne m'ont pas tué, ils m'ont demandé l'argent. Je suis allée dans la chambre. J'ai trouvé que mes cousins et cousines sont déjà par terre, ils gémissent, j'ai donné l'argent. Un a pris l'argent, le billet de 5000 francs rwandais a commencé à distribuer aux autres et un a pris son épée pour me tuer. Et puis l'autre a stoppé sa main. Non, laisse-la, elle n'est pas dangereuse, allons tuer les autres. Je suis allée dans la chambre, c'est lui qui était sous le lit, me dit, viens, je suis encore vivant. C'était mon cousin Manassé. Je suis allée sous le lit, et là, je ne pouvais pas bouger. J'étais coincée par le lit, je respirais le sang, et puis je suis restée là, les après-midi, la nuit, et puis subitement, la poche des os a éclaté, c'était les dents. Le temps de faire naissance. Qui devrait m'aider? C'était difficile. Et puis, je demandais à mon cousin, aide-moi à sortir de ce lit. Et puis, il m'a aidé de sortir. Et puis, je n'avais pas de choix. Je suis allée chez ma voisine, qui était Hutu. J'ai toqué. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? J'ai dit, c'est Denise. Oh, on va me tuer. C'était la première réaction. Mais quand même, elle a ouvert la porte pour moi. C'était une travailleuse au centre de santé de Muganza. Et puis, elle a ouvert la porte. Elle a pris des tabourets, elle a superposé les tabourets pour que je puisse aller dans le plafond. Mais ce n'était pas possible. Deuxième fois, troisième fois, l'enfant est sorti. Et puis, la femme est allée dans sa cuisine à l'extérieur. Elle a porté le couteau pour m'aider à couper le cordon ombilical. C'était tellement difficile. Puis, elle m'a dit, sortez de ma maison. Je n'avais pas d'autre choix. Je vis un soldat qui m'a pris pour aller à la clinique de la Cimérois. Et quand j'arrivais là-bas, les miliciens sont venus encore pour nous tuer. Mais ils ne nous ont pas tués.
Quand on a pris mon mari et tous les autres, une fois qu'il est arrivé à la porte, il s'est retourné. Il m'a regardé, il m'a dit « Amène les enfants loin d'ici ». Donc là, c'était un peu dans ma tête tout le temps. Je dois les amener, je dois les amener. De toute façon, c'est son dernier mot, c'est son dernier mot. Et j'ai eu la chance, j'avais encore quelques dollars, 60 ou 80, je ne me souviens pas très bien, mais c'est avec ça que j'ai payé un soldat qui nous a conduits à l'hôtel des Mille Collines. Et de là, on a été évacués à Kabuga, et de Kabuga, on a été évacués en Ouganda. Le 4 juillet, Kigali était pris. Et le 8 juillet, je me rappelle, nous sommes retournés à Kigali. Et là, j'ai eu la chance, j'ai commencé alors à trouver qui a survécu. Et il y a eu ma sœur dont le mari était tué et son fils aîné. Finalement, elle avait survécu avec 4 enfants. Elle est venue habiter avec nous. Ma belle-sœur avec ses enfants est venue habiter avec nous. D'autres amis sont venus habiter. On était 22 dans la maison. Ça, c'était très courant au début. On était tous entassés. Là où il y avait un toit, c'est là où on se mettait tous, quoi.
Je suis encore retournée dans la même place où je vécis. C'est là où j'ai eu le temps de traiter la haine que je... Parce que j'ai pu encore vivre avec les gens qui ont fait du mal pour moi, qui m'ont pillé tout. Mais avec la foi, avec la grâce de Dieu, je dis, vous serez jugés. Parce que vous avez fait du mal. Je vous donne la chance de vous repentir. Et puis j'ai dit officiellement, ok, je vous pardonne. C'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai arrivé à faire ça et aider aussi les veuves. Nous avions un petit groupe de veuves. On s'est posé beaucoup de questions sur le futur. Comment on va encore vivre dans une telle société qui nous a tellement déçus. Ce n'était pas facile, mais nous avions pris le courage de vivre encore.
On avait une colère, on avait une tristesse, on avait... Heureusement, on a canalisé ça dans quelque chose de constructif. On s'est dit non, on ne va pas rester par terre. Parce que par terre, on nous a voulu morts, on nous a voulu par terre même si on survit. Maintenant, le seul défi et la seule vengeance pour nous, c'est d'être debout. Avec tout le courage qu'on avait, c'était vraiment du courage à revendre. On a été partout, on a visité d'autres veuves. On a créé notre association qui est devenue notre nouvelle famille, quoi. L'association des veuves du génocide d'avril.
Les propos d'Esther Moujawayo et de Nizouimana Reinhardt ont été recueillis par Dirk Kupp. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité. Au micro, Marie-Ange Pierron.